je sais que, que certains ont chaud, je suis désolé, je ne vais pas arranger la situation, puisque je vous emmène donc vers des horizons tropicaux, en s'intéressant donc au nord de la Gold Coast britannique. Donc dans ce territoire-là, le premier poste de mission catholique qui s'y établit s'installe en 1906, précisément à Navrongo, dans une modeste bourgade, sauf que les Pères Blancs, donc issus de la Société des missionnaires d'Afrique, qui s'installent donc dans le nord du Ghana, n'ont pas choisi cette localité. Ce sont en fait les autorités britanniques qui les ont poussés à s'installer à cet endroit. Si bien que contraints de débuter l'évangélisation donc, du nord de la Gold Coast dans cette modeste bourgade, ils vont rapidement la baptiser Notre-Dame des Sept Douleurs. Alors parmi les douleurs qu'ils semblent ressentir à cette époque, c'est notamment la suspicion que le pouvoir colonial fait peser sur eux, puisque à la lecture du dier, c'est-à-dire du livre de bord de la station missionnaire, on a presque l'impression que l'oppression coloniale est encore plus, ou en tout cas est équivalente entre la contrainte exercée sur les populations que celle qui est exercée sur les missionnaires eux-mêmes. En tout cas, cette impression est évidemment trompeuse, ou en tout cas passagère, puisque rapidement, les missionnaires, les Pères Blancs, vont réussir un petit peu à se libérer des orientations coloniales pour déployer leur apostolat. Donc, bien entendu, ils tiennent toujours compte, ils prennent toujours en compte les règles imposées par le pouvoir civil, mais malgré tout, ils s'aménagent une marge de manœuvre, du fait notamment de l'existence d'un sous-encadrement donc administratif dans cette région, et donc ils vont pouvoir déployer des stratégies qui leur sont propres. Et donc le meilleur exemple de cette agency missionnaire s'observe justement dans le processus de territorialisation catholique. Quand je parle de territorialisation, c'est finalement le processus qui conduit au passage d'un simple espace en un véritable territoire. Territoire, c'est donc un espace approprié idéalement par le biais de représentation, approprié matériellement par le biais aussi d'aménagement. Donc ce territoire missionnaire, en apparence, au premier regard, s'intègre à l'espace administratif, mais on le verra, donc en réalité, il déploie une logique différente de la production coloniale de l'espace. Donc j'aurai deux parties, on va dire, d'abord en s'intéressant à l'échelle plutôt régionale, à la manière dont cette territorialisation s'opère d'une façon chronologique, depuis donc l'installation en 1906 jusqu'aux années 50. Et puis ensuite, en s'intéressant plutôt à l'échelle locale, aux articulations entre justement cet espace ou ce territoire missionnaire et les autres formes de spatialité. Alors tout d'abord, à l'échelle régionale. Donc lorsque les Pères Blancs et leurs catéchistes s'implantent donc dans le territoire britannique en 1906, on l'a dit à Navrongo, ils dépendent en fait d'un vicariat apostolique qui lui prend assise essentiellement dans le territoire colonial français. Sur la carte, je vais vous indiquer un petit peu où est Navrongo. On est là. D'ailleurs, la carte n'est pas exacte puisqu'il y a 1908 comme date de fondation. Mais donc, on a un petit territoire, une petite portion en territoire britannique, alors que l'essentiel du vicariat, d'abord baptisé Soudan français, en fait c'était Sahara-Soudan, lui prend assise dans l'AOF, donc en territoire colonial francophone et français. Et donc cette situation-là, qui fait finalement du poste de Navrongo un îlot missionnaire en territoire britannique, perdure jusqu'à 1926. À cette date, effectivement, le Saint-Siège décide de créer donc un vicariat apostolique de Navrongo. Et pour cela, il est très attentif, cette fois-ci, à la géopolitique des espaces impériaux pour dessiner les contours de la circonscription, qui en fait est exactement le décalque de la région administrative donc, du nord de la Gold Coast, appelée donc les territoires du nord, les Northern Territories, qui sont délimités donc au sud par la Volta Noire et encadrés donc par des frontières à l'ouest avec la Côte d'Ivoire, au nord avec la Haute-Volta et à l'est avec le Togoland sous mandat britannique. Voilà la représentation missionnaire de cet espace en 1930. En tout cas, avec cette création d'une circonscription apostolique de Navrongo, il y a une mise en conformité quelque part de l'espace missionnaire qui prend en compte donc la géopolitique impériale pour normaliser ici les relations politico-religieuses. Les autorités catholiques avaient bien vu que l'existence de ces vicariats apostoliques transimpériaux gênait justement et compliquait les relations entretenues par les missionnaires et les administrations coloniales. Donc ici on voit bien sur cette carte la volonté donc qu'ont eu les Pères Blancs qui l'ont réalisé de matérialiser le chevauchement des frontières administrative indiquée par des figurants pointillés et missionnaire indiqué par le figuré de couleur, sauf que vous devez le repérer, il n'y a pas de limite ici méridionale qui est définie, qui est dessinée pour finalement délimiter cette circonscription. On l'a dit, pourtant, le Saint-Siège l'a établi donc le long de la Volta Nord, ici. Mais là, son absence, finalement, semble indiquer que pour les missionnaires en 1930, à l'époque où la carte est produite, il n'y a pas véritablement de territorialisation de cet espace. Effectivement, les potentialités apostoliques, notamment du sud de la circonscription, ne sont pas encore connues. Et donc, les missionnaires se contentent de souligner les frontières coloniales qui, elles, sont déjà appropriées. Mais donc, ce qui veut dire que l'espace découpé juridiquement par le Saint-Siège n'est pas encore un territoire, dans le sens où il devrait être approprié par les missionnaires et les sœurs blanches de la région. On le voit donc à l'époque, la présence missionnaire est limitée à la bordure septentrionale de la circonscription avec quatre postes de mission que vous voyez normalement soulignés en rouge. Donc on repère dans le nord-est le poste de Navrongo qui va donner naissance à Bualgatenga en 1924, puis nouvelle nucléarisation avec Ouyara en 1927. Donc il y a une première région finalement dans le nord-est qui se dessine un petit peu sous le modèle de l'expansion en tache d'huile, où il s'agit finalement de rechercher une contiguïté entre les différents espaces des territoires missionnaires. Et puis, ce que vous pouvez voir aussi, c'est un autre poste qui semble un peu esselé, Jirapa, donc fondé en 1929, donc cette fois-ci dans le nord-ouest, mais qui va en fait être au centre d'un nouveau territoire missionnaire, véritablement, en tout cas conçu comme étant homogène. Effectivement, à partir de 1932, un mouvement de conversion s'observe dans cette région-là, auprès de populations que les missionnaires nomment les Dagara ou les Dagaba. Et donc, pour faire face à cette conversion massive, un certain nombre de postes de mission seront créés. D'ailleurs, c'est une logique qui est transimpériale, parce qu'en fait, les Dagara sont établis en Haute-Volta et au nord de la Gold Coast, et les migrations religieuses qui s'opèrent, puisque tout le monde converge finalement, des dizaines de milliers de personnes convergent vers Jirapa, obligent les autorités civiles, administratives, à s'en alerter. Et donc finalement, les autorités françaises, d'un côté, vont encourager les Pères Blancs à créer les stations de Dissin et de Dano en Haute-Volta, et puis les Britanniques, eux, vont conduire et pousser les Pères Blancs à créer celles de Caléo et de Nandom dans le nord-est, dans le nord-ouest, pardon. Et plus tard, il y aura d'autres fondations dans les années, on va dire les années 50, avec Ko, Dafiema et Wa, qui vont compléter un petit peu l'encadrement missionnaire de la région du nord-ouest. Donc normalement, on voit se définir deux régions missionnaires à ce moment-là. Enfin, j'espère que vous les voyez, ça dépend à quel stade de la digestion on est. Donc on a nord-est, finalement, qui est plutôt le cœur historique autour de Navrongo, dans des stations qui enregistrent très peu de résultats apostoliques concrets. Les missionnaires pratiquent ce qu'ils appellent la pêche à la ligne, où ils vont chercher une à une les personnes volontaires pour entrer à l'église, dans des configurations présentées comme étant compliquées, avec l'existence de nombreuses sociétés et de nombreux groupes ethniques. Et puis l'autre région, qui est plutôt, on va dire, conjoncturelle, liée à ce mouvement de conversion, qui apparaît donc au nord-ouest, dans des populations, au contraire, où les résultats apostoliques semblent prometteurs et où la population est présentée par les missionnaires comme unifiée. Donc deux logiques différentes qui se dessinent et donc deux régions différentes. Le succès donc enregistré par les missionnaires dans le nord-ouest va retarder l'évangélisation du sud de la circonscription, pardon, puisque finalement les ressources humaines, les ressources financières vont être captées pour faire face à ce mouvement de conversion, et donc on aura une progression très lente, une appropriation très lente de la totalité de la circonscription apostolique. Il faut donc attendre une troisième phase dans les années fin des années 40 et surtout les années 50 pour qu'émerge une troisième zone qui conduit donc à l'évangélisation du sud de la circonscription. Et là donc la troisième région qui se dessine n'est pas selon la même logique spatiale que tout à l'heure, où il y avait plutôt une recherche de contiguïté et de cohérence entre les régions. Là, on a plutôt l'avancée d'un front pionnier. On parlait un peu de Turner ce matin. C'est un petit peu cette idée, hein, des espaces discontinus sans véritable centralité pour organiser l'avancée progressive de l'appropriation. Donc on va avoir Tamale, par exemple, qui est la principale ville de la région, mais qui polarise un très faible espace, et puis un autre poste comme Damongo, qui au contraire se retrouve dans une population très très disséminée, et donc qui va polariser un très vaste espace. Donc il n'y aura pas vraiment de logique centrale pour organiser la troisième région missionnaire. On a plutôt donc ce qu'on pourrait appeler un territoire en archipel, qui va se constituer et qui finalement montre qu'il y a encore de nombreuses régions qui restent hors du champ de la mission au cours des années 50. C'est indiqué notamment par ce croquis missionnaire qui dessine à main levée en bleu l'aire de juridiction approximative donc de chacun des postes de mission. On voit bien pour le nord-ouest, pour le nord-est, la volonté d'une contiguïté. Alors que pour le sud, on se dessine tout juste à ce moment-là ce territoire en archipel avec Tamale et puis Damongo qui est annoncé pour l'année suivante. Mais en tout cas, l'impression est d'un espace très très disparate. D'ailleurs, un responsable de la mission écrit en 52 que les chrétiens se trouvent à chaque fois à la périphérie de la circonscription qui fait qu'on ne saurait dire où est le centre. Donc il y a une logique finalement ensuite de rechercher un centre. Et pour cela, donc, intervient des divisions qui vont effectivement conduire à la création de trois diocèses différents. On en voit un premier apparaître avec la frontière rose qui isole ici le nord-est, donc avec la création donc, en 1956 du diocèse de Navrongo qui se distingue donc, du diocèse de Tamale. Et puis en 1959, on a une troisième division avec donc au nord-ouest le diocèse de Wa. On a donc finalement, avec ces trois territoires validés ici par le Saint-Siège, une reconnaissance des dynamiques pragmatiques entreprises par les missionnaires sur le terrain au cours de leur histoire. On a bien vu donc se distinguer d'une manière progressive ces trois territoires par le bas. Et bien finalement, le Saint-Siège finit par le valider en définissant ses limites ecclésiales. Alors que la logique était inverse en 1926, lorsque Rome avait créé la préfecture apostolique de Navrongo, puisqu'il n'y avait pas, je l'avais dit, donc de territorialisation encore de cet espace. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu comment ces trois territoires sont apparus à l'échelle régionale, je n'ai pas trop le temps de le dire, mais il y a aussi des identités missionnaires qui vont se définir par rapport à ces différents territoires, et donc ça peut aussi permettre de penser l'articulation entre le territoire et les personnes qui le parcourent ou qui le fabriquent. Eh bien, intéressons-nous désormais plutôt à l'articulation que cette spatialité missionnaire va avoir vis-à-vis des autres régimes de territorialité. Alors évidemment, en contexte colonial, le premier territoire auquel on pense, ce serait ce territoire colonial, administratif. Alors on le sait, le poste administratif, les pistes, la garnison, les moyens de communication sont des éléments structurants de cette spatialité coloniale, qui d'ailleurs semble plutôt artérielle dans le nord de la Gold Coast, puisque l'investissement spatial du pouvoir britannique reste très modéré. La faiblesse, effectivement, de l'encadrement territorial s'explique notamment parce qu'il y a un manque de potentialité économique. En cela, le nord de la Gold Coast porte très mal son nom. En étant situé à 800 km de la côte et sans avoir de l'or. Ce qui fait qu'effectivement, il y a un relatif désintérêt pour cette région. Donc, pour suppléer à ce sous-encadrement administratif, les autorités civiles, pas seulement d'ailleurs pour cela, appliquent donc le système de l'administration indirecte, conceptualisé un petit peu plus tôt donc pour le nord Nigeria. Donc ça se passe dans l'entre-deux-guerres, grosso modo. Pour faire très simple, donc les autorités britanniques vont avoir une lecture ethnique du territoire, avec des enquêtes notamment réalisées par Rattray un petit peu plus tôt. Et ce pouvoir va contribuer à établir une cartographie un peu rigide des circonscriptions prétendument coutumières qui sont chargées alors d'administrer le territoire. Donc l'apparition de cette organisation spatiale, qui passe notamment par la création de chefferies dans le nord-ouest, dans des sociétés segmentaires, ou au contraire par des réagencements politiques dans les sociétés un peu plus centralisées, va provoquer des conflits qui portent notamment sur le tracé de ces aires d'influence des native states qui sont chargés donc d'administrer le territoire. Or ici, la géographie missionnaire n'est pas étrangère dans l'existence de ces tensions. Car même si à l'échelle régionale, donc on l'a vu, La préfecture apostolique de Navrongo cherche à se mettre en conformité avec l'espace colonial. À l'échelle locale, il n'en est pas question, puisqu'on remarque effectivement qu'il n'y a pas de congruence en fait, entre l'espace de la paroisse et l'espace du district. Il y a même chevauchement et parfois tension qui en découle, puisque ces deux unités spatiales peuvent se montrer concurrentes. Dans le nord-ouest, par exemple, l'attraction donc, des stations missionnaires lors de ce mouvement de conversion va détourner une partie de la population des centres administratifs qui vont plutôt profiter, chercher à profiter des services religieux, sociaux et économiques offerts par les pères. Si bien que l'évangélisation devient un facteur d'urbanisation et des stations comme celle de Nandom, qui était en fait à l'origine vraiment un bourg assez modeste, va désormais dépasser démographiquement d'autres villes qui étaient plutôt des centres administratifs, comme celui de Laura, donc qui se situe à quelques encablures de Nandom. Ce qui veut donc dire que les Pères Blancs ici contribuent à faire émerger de nouvelles centralités géographiques qui sont dissidentes du projet territorial porté par les autorités politiques. Alors évidemment, celle-ci s'en inquiète, et les administrateurs britanniques demandent d'ailleurs aux missionnaires en 1932, je cite, de limiter leurs activités aux zones administratives, sous-entendu de faire correspondre en fait leur paroisse à l'espace des districts. En fait, il n'en sera rien. Quelques temps plus tard, en 1946, un missionnaire écrit « Toutes les missions des Pères Blancs sont en brousse et non dans les centres administratifs ». C'est un peu exagéré puisque ce n'est pas le cas pour toutes les stations, mais pour un certain nombre d'entre elles, effectivement, on l'a dit, Nandom, par exemple, préfère s'installer plutôt que d'aller à Laura. Dans le nord-est, on aura l'exemple de Bindouri qui sera d'abord choisi à la place de Boku, etc. Il y a plusieurs exemples qui le montrent. En fait, en étant à distance du pouvoir colonial, les missionnaires recherchent aussi à organiser leur espace d'évangélisation un petit peu comme ils l'entendent. Ils vont donc procéder à un marquage religieux de l'espace topographique, mais aussi sonore, il ne faut pas l'oublier, afin d'affirmer face aux confessions concurrentes, donc à la présence de l'islam et du protestantisme, et aussi quelque part peut-être face au pouvoir civil, eh bien la prétention du catholicisme à organiser l'espace et donc à imposer son ascendance sur les populations. Par exemple, les cloches, et puis ensuite la sonorisation des cultes, à partir des années 50, participent de cette volonté donc de définir un espace et aussi une temporalité catholique. La construction de chapelles, de grottes de Lourdes, l'érection de croix à l'entrée des quartiers, ou encore le parcours des pèlerinages, qui est très intéressant, des processions, qui est très intéressant à étudier, eh bien, cherchent à imposer autant de balises pour structurer un espace missionnaire, quitte parfois même à confessionnaliser l'espace public. Et certains lieux vont s'imposer comme de véritables géosymboles. Je fais un petit rappel, le géographe donc Bonne-Maison qui définit ce géosymbole le considère comme étant un lieu, un itinéraire ou une étendue qui, pour des raisons religieuses, politiques ou culturelles, eh bien, prend aux yeux des populations une dimension symbolique qui les conforte dans leur identité. Ce qui veut donc dire que ce géosymbole, ce n'est pas simplement un marqueur spatial, c'est un lieu qui va être capable donc, de cristalliser une identité collective. Et en contexte missionnaire, ça veut donc dire qu'un lieu devient géosymbole quand les populations font des infrastructures missionnaires, catholiques, les repères de leur propre communauté. Ça voudrait dire que la territorialisation catholique, que j'essaie d'évoquer depuis le début, procède d'un double processus. D'une part, les missionnaires investissent l'espace, l'aménagent, mais d'autre part, les fidèles aussi vont intégrer à leur propre espace vécu les lieux de la chrétienté. Alors pour le comprendre, on peut prendre l'exemple de l'église de Navrongo. L'église de Navrongo, c'est d'abord l'illustration de cet aménagement missionnaire, de cette autorité missionnaire, puisque ces mêmes pères ont réussi notamment à obtenir du chef de la localité une main-d'œuvre gratuite pour construire au cours des années 20 ce monument aux dimensions assez remarquables pour cette époque. Donc, c'est d'abord l'expression d'un aménagement, on va dire, presque autoritaire de cet espace. L'église, évidemment, c'est aussi un lieu de culte où s'exprime la religiosité des fidèles, comme on peut le voir ici pour la fête Dieu. C'est un lieu de sociabilité qui va donner une existence géographique à une communauté en formation. Et puis, c'est aussi un repère spatio-temporel qui imprime le rythme à la chrétienté, puisqu'elle doit s'y réunir pour répondre aux exigences du calendrier liturgique. Si bien que les fidèles finissent par s'approprier ce lieu pour en faire donc le marqueur de leur propre identité. On le voit notamment lorsque les chrétiens de Jirapa, en 1900, enfin dans les années 50 ou au début des années 60, vont peindre l'intérieur de l'église, notamment en réutilisant les techniques de l'art kasena, de l'art local, pour eh bien, donner un sens à la symbolique chrétienne. Enfin, l'église marque aussi le centre donc, d'un espace paroissial où voisine la résidence de l'évêque, la maison des pères, le couvent des sœurs, les écoles de filles et de garçons, les dispensaires et aussi les quartiers chrétiens où se trouvent finalement réunis les premiers néophytes hein, qui vont se convertir. On a presque l'impression qu'ici que la densité du marquage catholique de l'espace eh bien, entraîne une situation d'extraterritorialité où seules les règles missionnaires s'exerceraient sur les quelques hectares qui définissent ce que les habitants appellent la mission. Quand on parle de mission, d'ailleurs, c'est avant tout un lieu plutôt qu'un processus. Sauf que cette impression est un peu trompeuse. En fait, les autorités catholiques n'ont pas le monopole du contrôle spatial. Restons en Avrongo. Lorsque les Pères Blancs arrivent en 1906, ils s'établissent à l'écart du centre donc de l'agglomération. Ils sont d'ailleurs tout heureux de trouver un espace vierge, ombragé, de nombreux arbres. Les écrits parlent d'un véritable paradis terrestre. En fait, si cet espace est justement assez boisé et s'il est inoccupé par des hommes, c'est qu'il s'agit d'un tangwam, d'un bosquet sacré. Donc finalement, chez les Kasena, ce bosquet sacré, c'est une ère rituelle marquée par des interdits. On interdit l'aménagement de cet espace, puisque dans cet espace se trouve une pierre sacrificielle destinée à réanimer régulièrement le souffle d'un lignage. En fait, à chaque tangwam correspond à un lignage fondateur et se dessine autour de son tangwam, donc une ère rituelle qui correspond à l'ère d'existence, en tout cas première de ce lignage. Donc les Pères Blancs, à ce moment-là, ne savent pas effectivement qu'ils profanent un lieu. Ils sont tout contents effectivement de trouver des arbres pour pouvoir construire leur bâtiment. C'est un peu différent du cas évoqué hier par Agnès par rapport à Duchaillou qui volontairement va le profaner. Là, ce n'est pas le cas. Il y aura d'autres exemples ailleurs. En tout cas, là, il y avait une stratégie autochtone puisque qui indique le lieu à ces missionnaires, c'est le chef de Navrongo. Il y avait la volonté pour le chef de Navrongo donc de pousser les pères à profaner ce lieu pour eh bien, réveiller le courroux des puissances invisibles afin eh bien, de faire disparaître ces Européens inopportuns. C'est une stratégie très, très courante, hein. On le retrouve à Caléo, les pères s'installent sur une colline sacrée, on le retrouve à Tongo, où c'est pareil, l'église est construite juste à côté d'un sanctuaire traditionnel. Alors là où je voulais en venir, c'est que ici, l'installation des représentants du catholicisme, finalement, ils arrivent à se maintenir, hein, malgré la volonté du chef de Navrongo. Donc l'installation des pères n'entraîne pas forcément la disparition des rites traditionnels qui s'effectuaient sur ces lieux. En effet, encore aujourd'hui, des sacrifices sont réalisés régulièrement dans ce qui va rester hein, du bosquet sacré. Il n'y a plus grand-chose aujourd'hui, mais il est situé entre l'école des filles et le cimetière. Et donc, effectivement, les prêtres du culte continuent d'animer les rituels nécessaires donc, à la pérennité du lignage qui s'y rattache. Ce qui veut donc dire que l'entremêlement des spatialités, d'une part missionnaire, avec effectivement cette mission qui est le centre d'une paroisse, et d'autre part coutumière avec le tangwam qui est le centre d'une ère rituelle. Donc cet entremêlement des spatialités va entraîner une superposition des religiosités. Et cette coexistence d'ailleurs est telle que les missionnaires eux-mêmes doivent en tenir compte, puisqu'on s'aperçoit que pour fonder une école, pour bâtir une chapelle, pour établir un dispensaire, eh bien à chaque fois ils vont demander l'accord des autorités coutumières. Alors généralement, comment ça se passe? Ils s'adressent donc au chef, alors je parle du cas du nord-est, surtout du pays Kasena, ils s'adressent au chef du village qui lui, à son tour, eh bien, demande au maître de la terre de désigner un endroit. Ce maître de la terre qui est en charge, grosso modo, des affaires foncières et rituelles, ne refuse pas l'installation d'un étranger. Mais pour cela, il est nécessaire d'opérer un rituel, puisque un aménagement conduit à blesser la terre. La terre en tant que puissance religieuse. Donc du coup, du matériel sacrificiel doit être fourni à ce maître de la terre. Des poussins, des poulets, des dabas, des boules de tabac. Et de ça, les sources missionnaires écrites n'en parlent pas. Donc on n'a pas effectivement connaissance par le biais des sources écrites de la participation des missionnaires à ces rituels. Pourtant, par le biais des sources orales, par le biais des enquêtes, on arrive à savoir que la mission fournit le matériel rituel nécessaire à l'installation et à la création de cet aménagement, sans que justement leur présence soit nécessaire, mais généralement ça se fait par l'intermédiaire des catéchistes, pour effectivement que les rites soient accomplis. Ça veut donc dire que pour qu'il y ait une territorialisation catholique véritable, eh bien, il faut que les missionnaires transigent avec leurs propres règles afin d'obtenir l'aval des puissances invisibles de la religion traditionnelle. C'est comme si un peu les œuvres catholiques ont besoin de la bénédiction de ces rites jugés païens justement par ces missionnaires. Donc, en conclusion, on peut voir, avec cet exemple, que les missionnaires ne forment qu'un groupe d'acteurs dans ce processus d'appropriation spatiale. Ils déploient donc leur propre stratégie de territorialisation, mais ils doivent aussi prendre en compte donc, les multiples coordonnées de la situation coloniale, qui fait qu'ils ne peuvent pas nier notamment les autres agencements spatiaux, que ceci soit produit par les modes de territorialisation autochtones ou qu'ils soient produits par la spatialité coloniale. Et dans leur articulation, donc, ces différents régimes spatiaux peuvent donc se montrer à la fois concurrents, mais aussi complémentaires. Alors, j'ai pas eu le temps de l'évoquer, je ne sais pas s'il me reste une minute.
Oui.
Bon, sur cette complémentarité, on pourrait évoquer ce qui se produit notamment au nord-ouest, donc dans ce pays d'Agara, où on va assister à la création d'un Dagabaland, donc territoire rattaché à une ethnie en formation, une ethnie d'Agara. Et là, il y a la participation conjointe des missionnaires, des autorités coloniales et des Africains eux-mêmes qui partagent cette volonté, mais pas du tout le même objectif. Pour les missionnaires, il s'agit en fait de donner une existence territoriale et presque ethnique à un groupe qui s'est converti en masse au christianisme et le distinguer justement des autres groupes voisins. Pour les autorités coloniales, il s'agit d'administrer mieux ces confins, cette zone de confins, effectivement, en érigeant donc un territoire d'Agaba avec des chefs qui le contrôlent. Et puis pour les élites africaines, formées notamment dans les écoles missionnaires, il va s'agir d'affirmer une identité collective qui leur permet effectivement d'espérer une certaine fierté, puisque c'était des groupes qui étaient généralement mis en minorité par les groupes voisins, les Wala notamment, puisque c'était un réservoir où étaient effectués les razzias liés à la traite esclavagiste. Si bien qu'on voit bien que, avec cet exemple, il y a une importance dans ces transactions liées notamment à la situation coloniale, à la mise en présence de plusieurs acteurs, et donc ce phénomène de production de territoire doit se penser effectivement d'une manière plurielle. Et en cela, j'espère avoir répondu un petit peu au thème du panel de cet après-midi. Merci. Merci.